À Miami, il faisait quoi, à peu près 30 degrés. Ici, à Washington, il fait 10, 15 degrés de moins. Anne, toi aussi, tu étais en Floride. Ça change quand même, hein?
Oui, j'ai dû sortir la petite doudoune ce matin, mais je suis contente de retrouver les couleurs de l'automne.
On va essayer de retrouver un peu de Floride avec le soleil, mais sans la chaleur. Dans la capitale aujourd'hui, on se retrouve sur Florida Avenue. C'est assez différent quand même de Miami ou d'Orlando.
Oui, mais moi, j'aime bien ce quartier. C'est un quartier afro-américain historique. Devant nous, il y a le Howard Theater, qui est vraiment un endroit assez exceptionnel à Washington. Et puis là-bas, derrière toi, Raphaël, t'as vu, c'est la statue de Duke Ellington, ouais, qui est effectivement un natif de la capitale.
Il est aussi sur une fresque juste à côté, là. Et il y a une autre fresque assez chouette, Washington, derrière nous.
Il faut savoir qu'à Washington, les grandes avenues portent le nom d'États importants des États-Unis. Donc oui, Floride, mais il y a aussi Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, bien sûr. On retrouve comme ça le nom de ces États qui sont importants dans ces élections présidentielles. C'est dans ces États que se livre sur le terrain la bataille électorale. C'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Avec moi pour en parler, il y a
Anne Corpet, RFI.
Grégory Phillips, France Info.
Et Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada. Nous allons retrouver Raphaël Grand de la RTS qui est sur la route un peu plus tard. Et Sonia Dridi de la RTBF est en Europe cette semaine. Élection, une bataille sur tous les fronts. C'est l'épisode 25 de Washington DC, le balado podcast des radios francophones publiques. Bienvenue.
I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Look, ladies and gentlemen, it's time, President, to heal. Heal, to hope. As President, I'll do precisely what I will do.
This is not an ordinary election.
Si on a choisi de s'installer sur Florida Avenue, ce n'est pas nécessairement parce que c'est la plus jolie de Washington. Je sais que toi, Grégory, tu es un grand fan de l'avenue Wisconsin, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, c'est vrai que j'habite par là et en plus, il y a une très bonne boulangerie française en bas de l'avenue.
Et puis toi, Anne, tu fréquentes presque tous les jours Massachusetts.
Ah oui, j'adore aller boiser et puis il y a toutes les ambassades, c'est des beaux bâtiments.
Mais bon, on a choisi Florida parce que la Floride, elle est stratégique. 29 électeurs au collège électoral. Les élections s'y décident presque toujours par des marges très, très serrées. Et surtout, c'est en Floride que Donald Trump a choisi de relancer sa campagne après son hospitalisation.
Ah oui, je voulais pas rater ça. Hein. Plusieurs milliers de personnes, la plupart sans masque, sont venues applaudir le retour sur scène de leur président. Alors, comme d'habitude, beaucoup de casquettes rouges, de drapeaux, de vêtements aux couleurs de Donald Trump. D'ailleurs, j'ai repéré un nouveau t-shirt.
Ah oui? Hein.
Je préfère le COVID-19 à Biden 20.
Oui, j'ai vu ta photo. Le t-shirt est d'un mauvais goût absolument parfait.
Alors, Donald Trump a fait un discours d'une heure sans tousser. Il avait l'air en forme, hein, la voix qui tonne, les interactions habituelles avec un public vraiment ravi de le retrouver. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends ça. We love you, we love you, on vous aime, on vous aime. Et à la sortie, eh ben, la satisfaction d'avoir retrouvé un Donald Trump inchangé et la conviction qu'il va l'emporter. Écoutez, Mike Sofka, je l'ai interrogé alors qu'il quittait le meeting.
He sounded great, he has a lot of energy, most energetic president we've ever had. Corona can't stop Trump, the Democrats can't stop Trump, nobody's gonna stop this country and Trump. Trump is not gonna lose. USA! USA!
Bon, je vais essayer de traduire avec le même enthousiasme que Mike. Il avait l'air bien, il avait plein d'énergie. C'est le président le plus énergique qu'on ait jamais eu. Le coronavirus ne peut pas stopper Trump. Les démocrates ne peuvent pas stopper Trump. Personne n'arrêtera ce pays. Et Trump ne va pas perdre. États-Unis, États-Unis, États-Unis.
Bel enthousiasme. Félicitations, Grégory. Bon, évidemment, en Floride, le président a toujours une bonne base. Mais c'est un État vraiment où cet électorat, il est très diversifié. À peu près, quoi, une heure à l'ouest de ce rassemblement. On retrouve la plus grande communauté de retraités aux États-Unis, The Villages. On est tous deux allés faire un tour, Anne, ces derniers jours. C'est assez fascinant quand même de voir toutes les voiturettes de golf se promener. Elles sont parfois décorées.
D'ailleurs, il faudrait qu'on propose à nos 5 radios respectives d'investir dans une voiturette peut-être pour nos déplacements.
Ouais, ce serait chouette. Non, c'est vraiment un lieu étrange. On se croirait presque dans une sorte de Disneyland pour personnes âgées. Alors, en fait, c'est plusieurs petites communautés fermées, interdites d'accès aux gens de l'extérieur, hein, derrière des murets, et avec un lieu commun, un lac, un centre-ville. ville très propre avec des commerces. Alors The Villages a été fondé par un conservateur important donateur du Parti républicain. Il reste très largement acquis à Donald Trump, même si ce soutien faiblit un peu. Et là, j'ai rencontré une espèce assez rare en ce moment, un électeur indépendant, encore indécis à moins de 3 semaines du scrutin.
Ça, on les cherche partout.
I'm an independent. I haven't decided yet. I do feel between two camps. I have a lot of friends that are either Republican or Democrat, and we can have a decent conversation without never seeing each other again. You know what I mean? Be friends afterwards.
Alors, John Giraud dit qu'il se sent pris entre deux camps, qu'il a beaucoup d'amis qui sont soit républicains, soit démocrates. On ne peut plus avoir de conversation décente sans menacer de ne plus nous voir, dit-il. Il a voté pour Donald Trump en 2016. Il dit qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, mais qu'il n'aime pas la manière dont il parle du Covid en disant que c'est comme la grippe, qu'il ne faut pas avoir peur. Il dit, je pense que c'est très grave. Si on l'attrape, on peut en subir les conséquences. Et ça pourrait faire la différence pour lui le jour du vote.
Very well make the difference in how I vote.
N'empêche, The Villages, ça demeure une région plutôt acquise aux républicains. Le comté où se trouve cette communauté-là a voté à 68% pour Trump en 2016. Mais quand même, et tu l'as sûrement vu, Anne aussi, on voit ici et là des pancartes en appui à la campagne de Joe Biden. Et la stratégie des démocrates là-bas, c'est d'aller chercher quelques points de pourcentage, seulement 5, 6% peut-être, et ça pourrait faire la différence à l'échelle de l'État, la Floride.
Oui, parce que la Floride, c'est un État qui est toujours remporté avec une toute petite marge d'1%. Donc les démocrates estiment que s'ils peuvent faire baisser le taux de Donald Trump dans les comtés où il a une avance solide, eh bien, ça pourra peut-être aider à faire basculer cet État.
Et puis au pays, en général, on constate que Biden, dans les sondages, est en avance sur Trump au sein de ses électeurs plus âgés, là, qui ont 65 ans et plus.
Alors ça, c'est dingue et c'est très important. Dans tous les derniers sondages, il apparaît que Joe Biden a, dans cette tranche d'âge de la population, les plus de 65 ans, entre 20 et 27 points d'avance sur Donald Trump. C'est du jamais vu. Normalement, c'est un électorat plutôt conservateur.
Oui, ils ont voté pour le candidat républicain à toutes les dernières élections présidentielles.
Oui, la dernière fois qu'on a vu un candidat démocrate vraiment populaire chez les seniors, comme on dit ici aux États-Unis, c'était Bill Clinton en 96. Depuis, effectivement, c'était un vote plutôt conservateur. Mais là, Joe Biden est très en avance dans les intentions de vote de cette catégorie de population. Et d'ailleurs, il a beau jeu de s'adresser aux seniors en disant « Regardez le bilan de Trump, notamment sur le coronavirus. »
So many lives have been lost unnecessarily because this president cares more about the stock market than he does about, you know, well-being of seniors.
À Joe Biden, qui accuse Donald Trump de s'intéresser davantage au marché plutôt qu'à la santé des personnes âgées. Et Trump, lui, tente de se défendre.
Ah ben, il a bien compris, effectivement, que là, il fallait vraiment aller séduire, cajoler cet électorat. Et j'imagine que vous avez tous vu cette vidéo tournée à la Maison-Blanche où il s'adresse directement aux personnes âgées.
Oui, c'était juste après sa sortie de l'hôpital.
La vidéo est hallucinante.
To my favorite people in the world, the seniors. I'm a senior. I know you don't know that. Nobody knows that. Maybe you don't have to tell them, but I'm a senior.
Et Trump s'adresse donc directement aux plus de 65 ans. Vous êtes mes personnes préférées. Moi aussi, je suis un senior. Personne ne le sait, mais je suis quand même un senior. On va prendre soin de vous. Vous n'êtes pas vulnérable. Enfin, si vous êtes vulnérable, bon, là, il s'embrouille un petit peu. Mais il promet aux seniors qu'ils vont recevoir les mêmes traitements que lui à l'hôpital Walter Reed.
Oui, mais alors en début de semaine, là, il a relayé un tweet de sa campagne très offensif qui dit... Biden for resident, à la place de Biden for president, ça veut dire Biden...
À la maison de retraite.
À la maison de retraite. Au-dessus de ce slogan, il y a une photo avec des personnes âgées dans des fauteuils roulants. Donc c'est vraiment un message assez paradoxal. On a l'impression qu'il se moque des personnes âgées.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont sans doute ces seniors, ces plus de 65 ans, qui vont... dans quelques semaines maintenant, départager deux autres personnes âgées, Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, bientôt 78.
Et évidemment, c'est un électorat qui participe beaucoup aux élections, 70% de taux de participation en 2016, qui est plus que les autres tranches d'âge au sein de la population. En Floride, il y a aussi un électorat très important, l'électorat hispanophone qui est très, très diversifié, divisé politiquement. Donald Trump a toujours beaucoup d'appui auprès des Américains d'origine vénézuélienne, d'origine cubaine aussi, notamment en raison de son message contre le socialisme, voire contre le communisme. Il y a même des Américains d'origine cubaine qui ont écrit une chanson appelant à voter pour Donald Trump. On va en écouter un extrait. Ay, 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 por yo. Yo voy a votar
por Donald Trump. Ça dit quoi?
Bon, on appelle à voter pour Donald Trump, finalement. On sent l'enthousiasme, donc, mais la popularité du président, elle est beaucoup plus faible au sein de la communauté portoricaine, aussi très importante en Floride. Beaucoup de membres de cette communauté reprochent à Donald Trump sa gestion, souvenez-vous, de l'ouragan Maria.
Oui, Maria avait ravagé l'île en septembre 2017. J'étais allée sur place, je m'en souviens, c'était juste après mon arrivée aux États-Unis. Et déjà, à l'époque, on s'interrogeait sur l'impact qu'aurait l'arrivée massive en Floride de dizaines de milliers de Portoricains qui fuyaient l'île ravagée par l'ouragan. Eh ben, on y est. Ils se sont pour la plupart installés dans le centre de la Floride, hein, près d'Orlando. Et ils n'ont pas oublié l'attitude dédaigneuse du président à l'époque, sans compter que l'aide promise par Donald Trump pour reconstruire les maisons, les infrastructures touristiques dévastées n'est toujours pas arrivée dans son intégralité.
Et vous vous souvenez de cette scène aussi, là, le président Trump qui était allé à Porto Rico, qui avait lancé des rouleaux de papier essuie-tout sinistrés.
Oui, bien sûr, en France, on appelle ça du sopalin.
Ah ouais, pas de marque, pas de pub.
Et évidemment, les gens dans la communauté s'en souviennent encore. C'est ce que m'a dit Ruth, que j'ai rencontré justement dans la région d'Orlando et qui m'a dit avoir pleuré en voyant cette scène-là.
That whole throwing paper towels at people, that was so offensive. I sat down and I cried when I watched that.
Mais le problème pour les démocrates, c'est d'aller faire voter les portoricains qui traditionnellement participent peu aux élections parce qu'ils sont un peu dégoûtés de la politique à cause des affaires de corruption qu'il y a souvent sur leur île.
Donc, la Floride, Donald Trump y a fait deux arrêts en une semaine. Biden y est allé également. On va revenir au candidat démocrate plus tard. Mais attardons-nous sur les autres arrêts du président parce que ça peut donner de bons indices, Grégory, sur la dynamique de cette campagne-là.
Tu veux parler de l'Iowa, par exemple?
Ouais.
Qui aurait dit il y a six mois que Trump serait obligé de faire campagne en Iowa, qu'on présente souvent comme le Trump Country, le pays de Trump?
Et où il avait eu une importante victoire il y a quatre ans.
9 à 10 points d'avance sur Hillary Clinton en 2016. Et bien là, il est quasiment dans les sondages, dans les intentions de vote, à égalité avec Joe Biden. C'est vraiment extrêmement serré dans l'Iowa. C'était, encore une fois, inimaginable il y a quelques mois. Alors l'Iowa, c'est pas un État très important en termes de grands électeurs. Ça rapporte 6 grands électeurs. Mais néanmoins, la campagne Trump 2020 a compris qu'il fallait vraiment se bouger et aller faire du terrain là-bas s'il voulait être sûr de l'emporter.
Et il va aussi en Géorgie.
Pareil, en Géorgie, en 2016, sauf erreur de ma part, il avait 5 à 6 points d'avance sur Hillary Clinton. Et bien là, dans les sondages, Joe Biden est largement devant avec 7 points d'avance dans cet État du Sud sur le candidat républicain. Là aussi, c'est vraiment très surprenant. Il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte et qui est très important, c'est le vote anticipé en Géorgie qui est massif depuis quelques jours. On a vu à Marietta, dans la banlieue d'Atlanta, des files d'attente. Il fallait attendre 11 heures pour aller voter et il y avait des centaines et des centaines de personnes qui allaient déposer leur bulletin dans l'urne. Beaucoup d'Afro-Américains, donc il faudra voir effectivement quelles conséquences ça a sur les résultats du 3 novembre.
Petite suggestion, si vous avez 11 heures d'attente devant vous, vous pouvez réécouter tous les épisodes qui ont été réalisés de Washington,
oui,
D.C.
Certains peut-être même deux fois.
Et donc, si les républicains, évidemment, sont à la défensive, eh bien, les démocrates, eux, sont à l'offensive.
Oui, on en parlait la semaine dernière, hein. Joe Biden est de retour sur le terrain. Alors, c'est des petits événements, hein, avec peu de public, port du masque, distance réglementaire. Rien à voir avec l'enthousiasme et la foule des meetings du président. Mais enfin, il parcourt du pays cette semaine. La Floride, l'Ohio, ce soir, la Pennsylvanie. Alors, Kamala Harris, elle est coincée à Washington.
Bien sûr.
Mais Jill Biden, l'épouse du candidat, fait campagne. Elle aussi, elle s'est rendue en Géorgie et au Texas, qui pourrait lui aussi basculer.
Et justement, on va aller rejoindre notre ami Raphaël Grand de la RTS qui parcourt les États-Unis. Il a traversé le Texas, on le rejoint dans le Wisconsin, allez, on l'appelle.
Le camping-car est grand. Il faut aller jusqu'au téléphone. Salut Raphaël.
Salut.
Salut.
Bonjour tout le monde.
On veut faire appel à ton expertise. Tu as traversé le Texas. Est-ce qu'on y croit à une percée démocrate là-bas?
Mon expertise, oui, écoute, Texas, bastion républicain,
On y croit, côté démocrate. Le Texas, c'est l'État, vous savez, des cow-boys et des rodéos. Les cow-boys, vous savez, ils sont assez conservateurs, ils votent très largement républicains. Et pour tout vous dire, ils n'aiment pas trop parler politique autour des enclos des rodéos. Mais au nord du Texas, oui, j'ai rencontré Hunter Evans. Il a 21 ans et il est le président du Parti démocrate local.
Texas is so diverse and it's growing and there's a lot happening. It really means fighting for healthcare, fighting for healthcare access.
Et Hunter, il me dit qu'il voit son état évoluer, qu'il voit la démographie en plein essor. Il est très confiant, oui, de voir ce Texas changer. Il m'a parlé de thématiques très concrètes comme la santé, l'accès aux soins, la petite ville dans laquelle il habite. Ça s'appelle Clarksville. Cette ville, elle a perdu son hôpital il y a 6 ans et les gens doivent désormais rouler 50-60 kilomètres pour atteindre leur hôpital. Et c'est sur ce genre de thématique que les démocrates, selon lui, peuvent faire la différence. Peut-être pas en 2020, mais ces prochaines années, sans doute.
Et Raphaël, tu as dû voir que le vote par anticipation a commencé au Texas. Et là aussi, comme en Géorgie, il y a des records de participation.
Ouais, exactement. Et ce qui montre sans doute l'engouement et l'intérêt des électeurs à travers tous les États-Unis pour cette campagne présidentielle.
Une victoire démocrate au Texas, c'est dans les rêves les plus fous des démocrates. Ils en parlent à chaque élection pratiquement. Mais avant de penser à des percées, il faut quand même regagner le terrain perdu en 2016. On parle beaucoup de ce mur bleu qui a basculé il y a 4 ans en faveur de Donald Trump. Vous savez, ces 3 États qu'on a pas mal tous visités, là, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette région-là?
Ce sont des États ouvriers, vous savez, cette Rust Belt, cette ceinture de la rouille, longtemps considérée comme acquise aux démocrates, à tel point qu'en 2016, Hillary Clinton n'avait même pas jugé bon de faire le déplacement le Wisconsin. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est impératif pour les démocrates de reconquérir ces États, mais rien n'est joué. Le Wisconsin, par exemple, a été très marqué par les émeutes de Kenosha et pourrait être sensible au discours de la loi et de l'ordre du président Trump.
Et puis Raphaël, il y a un baromètre qui est vraiment très intéressant, un thermomètre à surveiller, c'est de vérifier où les candidats ces derniers jours achètent des publicités et où ils placent leurs billes, entre guillemets.
Follow the money, comme on dit souvent en anglais.
Et en français, on dit suivez l'argent.
Exactement. Et donc la campagne Trump vient de transférer ses budgets de publicité télé. Ils arrêtent la pub dans l'Ohio, l'Iowa et le New Hampshire pour placer tout cet argent dans 5 États clés à leurs yeux, le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie et le Minnesota, où là, ils vont bombarder les électeurs de spots télé quotidiens et placer beaucoup d'argent dans ces 5 États-là.
Et pendant ce temps-là, Joe Biden continue de récolter des sommes folles.
Oui, on a l'habitude de dire que l'argent, évidemment, est très important dans une campagne électorale américaine. Record pour le candidat démocrate en septembre, $383 millions levés.
Il a dit que c'était plus que ce qu'il avait pu récolter tout au long de sa carrière.
Et pour vous donner des nouvelles du front, j'étais hier dans le Michigan, justement. Et moi, j'ai senti, donc les démocrates confirment, j'ai aussi senti de la frustration, en fait, parce que Trump, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, mais Trump est en campagne en ce moment, il organise plein de meetings. Les démocrates, eux, sont en mode virtuel, ils passent des coups de téléphone, ils lèvent des fonds sur Internet. J'étais à Grand Rapids, ça c'est la deuxième ville de l'État du Michigan, et les démocrates là-bas avaient trouvé un moyen de faire campagne sur le terrain, malgré la pandémie. Ils utilisent un élastique pour accrocher aux portes les dépliants de campagne. Vous savez qu'on n'a pas le droit de glisser des publicités politiques dans les boîtes aux lettres.
Non.
Ah non, je savais pas.
Ah bah la boîte aux lettres, c'est un espace fédéral et c'est interdit par la loi.
C'est neutre.
Donc l'élastique à la poignée de porte, il n'y a pas de contact. Et c'est un moyen de faire du porte-à-porte sans toucher la porte.
Comme quoi, malgré l'argent, il faut savoir s'adapter en 2020. Nous sommes toujours aux abords de l'avenue Florida, c'est dans le nord-ouest de Washington, et on va jouer, si vous le voulez bien, les amis, à un petit jeu. Je vous nomme une avenue, et vous me dites si vous pouvez la situer sur la carte de Washington. L'avenue Main?
Ah, facile, dans le sud-est, c'est là où il y a The Wharf, c'est les quais, vous savez, le long du Potomac, avec le marché aux poissons,
super
et
place.
Cette super salle de concert où j'ai passé quelques bonnes soirées.
The Anthem, formidable salle de concert.
Excellente salle. L'avenue South Carolina?
Je passe mon tour.
Alors là, c'est un piège, je ne sais pas où elle est.
Alors, ce n'est pas une très grande avenue, elle se trouve plus à l'est de la ville, à l'est du Capitole, en fait.
Ah, vers Eastern Market.
Oui, à peu près.
Un endroit qu'on vous recommande pour aller déjeuner.
Arizona Avenue?
Aucune idée.
Ça me dit quelque chose, ça doit pas être trop loin de chez moi, ça.
En fait, c'est dans le nord-ouest, mais plus à l'ouest du quartier de Georgetown. Vous savez pourquoi j'ai choisi ces trois avenues-là? Ben, parce qu'elles représentent des États où il y a d'importantes luttes au Sénat. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des élections présidentielles en novembre. Il y a aussi le contrôle du Sénat qui est en jeu. Et il y a une dynamique qui est particulière en ce moment.
Oui, bon, les Républicains ont actuellement une courte majorité au Sénat, hein, 53 sièges contre 47 pour les démocrates, mais les Républicains remettent 23 sièges en jeu et les démocrates seulement 12, donc ils prennent moins de risques et sont favorisés par la carte électorale. Et sur les 23 sièges en jeu côté républicain, il y en a 4 en difficulté et au moins 13 où la compétition est ouverte.
Il y a un cas qui, je pense, nous intéresse tous particulièrement, c'est celui de la Caroline du Sud.
Ah non, mais moi, ça me passionne, la Caroline du Sud. Pourquoi? On a une élection sénatoriale avec un élu républicain, Lindsey Graham, que vous connaissez. C'est vraiment l'incontournable de la scène politique américaine, élu au Congrès depuis 2003. Un temps très critique de Trump, et puis on peut dire qu'il a retourné sa veste à partir du moment où Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et donc ce Lindsey Graham, cacique du Parti républicain, affronte le 3 novembre un jeune démocrate, un afro-américain, qui s'appelle Jamie Harrison. Et il y a quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se dérouler dans cet état de Caroline du Sud, c'est que Harrison a récolté 57 millions de dollars au troisième trimestre. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans une campagne sénatoriale, ce qui pousse Lindsey Graham, le sénateur sortant, à faire la tournée des plateaux télé, et notamment ceux de Fox News, tout simplement pour aller réclamer de l'argent.
The most money ever spent in the history of the state on a Senate race was by me in 2014 when I spent $13 million. He raised $6 million from the time Justice Ginsburg.
Et Lindsey Graham, quasiment les larmes aux yeux, dit le record de levée de fonds dans cet État, c'était moi en 2014, $13 million. Mais là, mon adversaire a levé 6 millions dans les 72 heures qui ont suivi la mort de la magistrate Ruth Bader Ginsburg. Moi, je suis mort financièrement, dit Graham. Tout cet argent, je trouve ça détestable. En anglais, il dit
« This money is cause they hate my guts ».
Ça me prend en trip.
Et moi, Jamie Harrison, donc l'adversaire de Lindsey Graham, je l'avais rencontré à Chicago lors de la réunion annuelle du Parti démocrate. Vous savez, il est coprésident du Parti démocrate à l'échelle nationale. Et on avait parlé de la stratégie du parti, comment reconquérir des électeurs passés dans le camp Trump. Et il m'avait parlé de son enfance et de son parcours en politique.
I grew up in rural South Carolina. My mom was 16 years old when she had me. We grew up in poverty. I remember nights when we didn't have the lights on.
Jamie Harrison est né en Caroline du Sud. Sa mère avait 16 ans quand il est né et il a vraiment vécu dans la pauvreté, comme il l'explique. Il n'avait même pas de la lumière pour s'éclairer la nuit chez lui. Et aujourd'hui, il est devenu un peu cette figure montante du parti démocrate. Jamie Harrison, une ascension fulgurante sur la scène politique et une certaine idée du rêve américain, comme il le dit.
Et si Lindsey Graham perd la Caroline du Sud, ce sera vraiment un choc, mais énorme hein, pour les Républicains.
Oui, tout à fait. Ce serait une grande surprise. Peut-être que l'État qui est le plus à portée de main pour les démocrates en matière de lutte sénatoriale, c'est l'Arizona, qui a pourtant longtemps été un bastion républicain, n'est-ce pas? L'État de John McCain, de Barry Goldwater. Raphaël, toi, c'est là que tu as entrepris ton long séjour à travers les États-Unis. Tu avais commencé là-bas, en Arizona.
Voilà, ouais, j'ai fait quelques zigzags à travers les États-Unis, mais effectivement, j'ai débuté à Phoenix, Arizona, et j'ai rencontré un certain André Koudelski, vous le connaissez?
Ah bah oui, bien sûr,
suisse,
le compagnon de nos vies.
Exactement, alors je vais préciser, André Koudelski, entrepreneur suisse qui vit entre donc la Suisse et Phoenix en Arizona, c'est le papa en quelque sorte des enregistreurs modernes, des journalistes radio, le fameux NAGRA. Et André Koudelski, c'est un fin connaisseur de la politique américaine et il nous pose le décor en Arizona.
Que cela soit côté républicain ou côté démocrate, on a beaucoup plus des modérés que des gens plus extrémistes. Et c'est une des spécificités de l'Arizona.
Et pour revenir sur les candidats locaux, en Arizona, il y a vraiment une course qui passionne les gens, c'est celle pour le Sénat. Il y a un duel entre la républicaine Martha McSally, celle qui a remplacé John McCain au Sénat, et elle est opposée à Mark Kelly, ancien astronaute. Cette course-là crée beaucoup d'engouement. Kelly est peut-être même plus populaire que Joe Biden hein, en Arizona.
C'est pour ça que ce sera une lutte à surveiller. Raphaël, on te remercie. On te laisse poursuivre ton voyage. Si tu vas un peu plus au nord, là, tu vas peut-être arriver au Canada dans quelques heures. Alors,
la frontière est toujours fermée.
Ouais, je vois presque le Canada. Je suis dans le Wisconsin.
Salut, bon voyage. Et un dernier arrêt dans notre portrait des courses au Sénat. Anne, il y a le Maine. C'est là que tu as passé tes vacances, toi, cet été.
Oui, et en camping-car aussi. Alors, le Maine, c'est forêt, c'est lac, c'est plage.
C'est Omar.
C'est Omar et sa sénatrice républicaine, Suzanne Collins. Elle s'est illustrée par sa position parfois critique du président. Vous vous rappelez, elle a notamment refusé de voter l'abolition de l'Obamacare. Mais évidemment, les démocrates mènent une charge très lourde contre elle. Et elle semble parfois un peu perdue au milieu. Là, écoutez-la par exemple lors du premier débat avec son adversaire démocrate dans la course au Sénat.
I don't think that the people of Maine need my advice on whom to support for president.
Et elle dit, je ne pense pas que les gens du Maine doivent avoir mon avis sur qui devrait être président. Donc elle déçoit les républicains les plus proches de Trump et elle risque de perdre donc des électeurs sur sa droite sans en avoir gagné sur sa gauche.
Et vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près dans les 20 prochains jours.
Le sénateur républicain Ted Cruz, qui ne remet pas son siège en jeu, lui, a parlé de possibles bains de sang pour le camp conservateur.
Aujourd'hui, on a abordé la dynamique sur le terrain, les stratégies des différents partis. Nos auditeurs ont peut-être des questions sur cette campagne qui est complètement, on peut le dire, hors norme. Eh bien, si vous en avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte Twitter de Washington DC. Ça pourrait peut-être inspirer nos prochains épisodes. D'ailleurs, parlant de prochains épisodes, vous savez combien il en reste avant le jour de l'élection?
Trois?
Deux.
Deux épisodes seulement, comme quoi tout passe très vite. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pas sous le soleil de Floride, mais toujours dans la bonne humeur pour un autre épisode de Washington DC, le balado podcast des radios francophones publiques. À bientôt.
Au revoir. Au
revoir. Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Réalisé par
Virginie Gagnon-Leduc.